J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et on va faire une déclaration de la foi que nous aimons faire ici parce que nous croyons que ce livre est inspiré de Dieu. Donc on va dire ceci, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Et je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est dans mon cœur depuis à peu près une semaine ou plus. J'étais juste en train de penser, prier et méditer un peu. Et il y a trois choses qui sont venues dans mon esprit. Et dès que j'ai eu ça, j'avais comme quelque chose qui a comme une explosion dans mon cœur de vérité, de révélation. C'est comme, wow, ça c'est bon. Et le Seigneur m'a encouragé avec cela. Et je crois que ça va être une source d'encouragement pour vous aussi. Aujourd'hui, on va parler du bien-être total. Est-ce que ça vous intéresse? Et le monde en parle aujourd'hui. Je sais que moi, je vais au gymnase et le gymnase, ils ont toutes les choses affichées partout qui sont engagées à notre mieux-être. Et tous ceux qui sont là, ils portent des chemises souvent et ça parle de mieux-être et corps et esprit. Et voilà, donc le monde en parle. Ils savent que c'est pas juste c'est une chose d'être en forme physiquement, mais c'est pas assez. Le monde comprend qu'il faut être en forme aussi au niveau de l'âme. Mais on va aller encore plus loin aujourd'hui et on va voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de comment être en forme totale. Et c'est ça qu'on veut. Et il y a un verset dans la parole de Dieu que nous allons lire pour commencer. Le bien-être total pour l'homme entier. Et ça se trouve en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 23. Et c'est un verset de la parole qui est inspiré par le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit sous l'inspiration. Il a dit ceci, que le Dieu de paix, et n'oubliez pas, déjà c'est bon parce que Paul c'était un hébreu, il est venu au monde, il parlait la langue des hébreux aussi. Et on sait que les Hébreux, les Juifs, quand ils se voient, même aujourd'hui, même en l'an 2009, si tu aurais la chance d'aller en Israël, tu pourrais rencontrer des gens et tu vas les entendre dire, au lieu de bonjour ou salut, ils vont dire quoi? Ils vont dire shalom. Et on a souvent parlé de ce mot shalom ici à l'église. Ça veut dire quoi? Rien de brisé et rien qui manque. Donc, en fait, on peut imaginer que Paul, avec cette mentalité qu'il a de ce mot paix, quand il dit que le Dieu de paix, que le Dieu de shalom, même si ici c'est le mot sérène qui nous fait penser à la sérénité, par exemple aussi, ça c'est déjà bon, mais que le Dieu de paix, que le Dieu qui fait en sorte que rien ne soit brisé et que rien manque dans votre vie, vous sanctifie lui-même tout entier. Tout le monde dit tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, tout le monde dit l'esprit, l'âme et le corps, tout votre être, donc on voit déjà quelque chose de bon. Quand la Bible parle de tout votre être, vous êtes une personne qui a été créée à l'image de Dieu sur trois dimensions, pas sur deux dimensions. C'est pourquoi, dans le fond, quand quelqu'un parle du corps et l'âme, il se trompe. Ils ont manqué un élément important. La Bible parle pas juste de l'âme et le corps. C'est pas juste l'esprit et le corps. Et aujourd'hui, en français, il y a encore plus de confusion parce que souvent les gens disent esprit et ils parlent de l'intelligence ou des pensées. Mais si on regarde bibliquement, on voit qu'il y a une distinction entre esprit, âme et corps. Et quand on parle de votre être entier, on parle de ces trois parties. Amen? En fait, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que le vrai vous est un esprit. Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Combien de dieux est-ce qu'il y en a? Un seul Dieu, n'est-ce pas? Mais ce Dieu se manifeste en combien de personnes? Trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il était, il est, il va venir, n'est-ce pas? Il est trois fois saint, notre Dieu. Mais savez-vous quoi? Vous êtes créé à son image. Vous êtes une personne, mais vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Et ce que nous allons voir, c'est que Dieu s'intéresse à toutes les trois parties de votre être, pas juste votre esprit, pas juste votre âme, pas juste votre corps, mais il s'intéresse à l'ensemble. Et Dieu veut que vous soyez en forme et en santé et que vous soyez bien dans l'ensemble de tout votre être entier. Il y a des gens qui n'ont pas l'air trop motivés par ça, hein? Ouais? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient être vraiment bien spirituellement? Ouais? Mais avec ça, aussi être bien au niveau de votre âme. C'est quoi? L'esprit, c'est le vrai vous. Vous êtes en esprit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand Dieu vous a créé, il vous a créé à son image, vous êtes esprit. Tout le monde dit, je suis en esprit. Ça, c'est votre fort intérieur. C'est la Bible appelle ça l'homme intérieur. C'est votre esprit. Mais vous avez une âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est quoi? C'est vos émotions. C'est votre volonté. Et quelqu'un d'autre peut dire, c'est votre intelligence. En fait, votre âme, c'est le siège de votre être. C'est là où vous pensez, vous ressentez les choses et vous prenez des décisions. OK? Dans votre âme. Donc, Dieu dit dans ce passage que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit est régénéré. Une fois que vous confessez Jésus comme Sauveur et Seigneur, votre esprit est recréé, vous êtes devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Puis, la Bible dit que votre âme a besoin d'être renouvelée. Votre façon de penser, ressentir les choses et prendre des décisions. Votre âme a besoin d'être renouvelé. Et ensuite, la Bible parle aussi de votre corps physique. Et Dieu veut que vous soyez sanctifiés tout entier, pas une partie, mais tout entier. Votre bien-être total pour l'homme entier. Donc, on va voir cela et on voit que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de vous croyez que Jésus revient? Il revient bientôt et quand il revient, il veut que nous soyons en forme spirituellement et au niveau de notre âme et même physiquement. Et quand je dis cela, il y a des gens qui vont dire, oh mais oui, attends, comment ça, je comprends pas, on va comprendre une fois que nous avons vu les choses ensemble dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Il y a un verset Ésaïe 53 et je vous encourage vraiment à venir mercredi qui s'en vient, mercredi soir, parce qu'on va décortiquer Ésaïe 53. On va regarder la signification de ces mots en hébreu même, et on va voir que c'est tellement riche ce passage, et vous allez voir une lumière resplendissante qui va vous libérer dans votre vie chrétienne. Donc, je vous encourage fortement à venir pour la série qu'on fait le mercredi soir. Mais Dieu dit ici en Ésaïe 53, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisés pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes, quoi? Guéris. » Donc ici, nous voyons que quand Jésus est venu, se sacrifier pour que nous soyons complètement restaurés, esprit, âme et corps. Ça, c'est son plan. Le plan de la rédemption, c'est un plan qui touche votre vie spirituelle, votre vie émotionnelle et votre vie physique. Allô? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas. Ils pensent que ce n'est que spirituel. Ils ne savent pas que Dieu veut aussi guérir votre âme et qu'il veut aussi guérir votre corps physique. OK? Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Votre être tout entier, votre bien-être total. Et qu'est-ce qu'on a besoin de réaliser, c'est que Jésus a déjà payé le prix pour cela. Combien de vous êtes convaincus de cela? Si vous n'êtes pas encore convaincus, vous allez voir. Parce que moi, je ressens quand même un peu de résistance, peut-être intellectuelle, ce matin. Il y a des choses qui sont... Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je suis en train de dire que Dieu met autant d'importance sur votre physique que l'esprit? Non, je n'ai pas dit ça. Hein? Parce qu'on sait qu'on peut, on peut aller au ciel même si notre corps est malade on reste malade tous les jours de notre vie. Vous savez quoi? On peut aller au ciel. La chose la plus importante, c'est d'être sauvé et d'avoir notre esprit régénéré. N'est-ce pas vrai? Ok, je suis pas en train de dire cela. Vous pouvez même aller au ciel, même si vous êtes dans un état épouvantable, mais émotionnellement, si votre âme est encore méganée, vous avez encore des blessures profondes dans votre âme, dans vos émotions, vous pouvez quand même aller au ciel. Vous êtes d'accord? Mais si votre esprit n'est pas régénéré, désolé, mais on ne peut pas se rendre au ciel à moins d'être né de nouveau, Jésus a dit, n'est-ce pas? Donc, il faut naître de nouveau. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais comme Psaume 103 dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si Jésus a payé pour quelque chose, qui suis-je pour dire que ce n'est pas important? Écoute, moi, j'ai eu une amie, une bonne amie à l'école secondaire, une chrétienne qui aimait le Seigneur Jésus. Mais savez-vous quoi? Moi, j'étais convaincu que quand la Bible promet le baptême du Saint-Esprit, par exemple, avec l'évidence de parler en langue et les dons d'esprit, tout cela, moi, j'étais convaincu que c'est une chose, et je suis encore convaincu, c'est une chose qui nous appartient aujourd'hui. Il y a une place dans la Bible qui dit que c'est plus valide aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Mais mon amie n'était pas d'accord. Et elle savait, par exemple, que je priais en autre langue, j'avais vraiment reçu ce baptême du Saint-Esprit, mais elle disait une chose, elle prenait un verset de la parole en disant, mais tu sais quoi, la Bible dit que le don des langues, c'est le plus petit des dons, donc ça ne m'intéresse pas, ok, mais est-ce que tu as les autres dons? Non, donc alors si tu ne peux pas, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le raisonnement, est-ce que tu me suis? C'est comme si, bon, mais écoute, parler en langue, c'est le plus petit des dons. Et dans un sens, je suis d'accord, parce que c'est la prière en langue qui ouvre la porte au surnaturel. Souvent, on commence là, et ça donne place aux autres dons, les dons de puissance, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, le don de la foi particulière, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, le discernement des esprits, toutes ces autres choses, mais... Elle disait, parce que c'est le plus petit, écoute, ça m'intéresse pas. Mais commence au moins avec le plus petit. Et si vous avez au moins le plus petit, vous allez voir que le Seigneur va ouvrir les portes pour autre chose. C'est un peu la même mentalité quand on parle du fait que Dieu veut qu'on soit bien, esprit, âme et corps. Ils disent, mais écoute, le corps, c'est pas tellement important. Hein? L'exercice corporel, la Bible dit, profite peu. Mais la piété est profitable en toutes choses. Okay? Donc, il y a des gens qui vont dire, tu vois, j'ai pas besoin de faire les exercices parce que la Bible dit que l'exercice corporel profite peu. Oui, mais ça profite quand même. Allô, est-ce que vous me suivez aujourd'hui? Hein? Et on a besoin de ça. On a besoin, comme Tania vient de dire, on a besoin de notre corps physique pour rester ici sur la terre. Vous savez, la seule chose qui vous donne le droit de rester sur la planète Terre, c'est votre corps physique. Dès que votre corps physique est fini, vous partez. Boum. Pas le droit de rester. Il n'y a pas de fantômes sur la Terre. Vous êtes d'accord? Hein, sur ces personnes qui pensent qu'il y a des fantômes, c'est pas vrai. C'est votre corps physique. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons quand même en forme pour pouvoir rester le plus longtemps que possible. Pour quoi? Pour témoigner, pour gagner les âmes, pour faire l'œuvre de Dieu ici sur la terre. Amen? Donc, on veut vraiment changer notre façon de voir. Si vous pensez, ou si vous avez pensé, ou si dans le passé vous avez dénigré le côté physique, ou le côté émotionnel, j'aimerais que ça change. On ne veut pas l'élever trop. Comme le monde fait, le monde va faire en sorte que le corps, c'est vraiment l'idole. Vous êtes d'accord? Les gens sont en train d'adorer le corps physique aujourd'hui. Tout ce qui est beau, belle, et tout est vendu avec le sexe et tout cela, et le corps physique, c'est la chose la plus importante. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, vous avez remarqué l'ordre même ici, dans la parole, que tout votre être, esprit, âme et corps. Je pense que ça, c'est vraiment pas par hasard. La priorité, c'est esprit, âme et corps. Je dis aux jeunes couples qui tombent en amour et qui veulent commencer une relation, savez-vous quoi? Gardez les priorités. Travaillez sur votre vie spirituelle, premièrement. Il faut avoir une base spirituelle. Ensuite, il faut travailler le côté de l'âme, devenir les meilleurs amis, partager vos sentiments, partager vos pensées, prenez les décisions ensemble, commencez à développer, cultiver le côté de l'âme et réserver le corps pour après le mariage. Amen? Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et il faut que ça soit de même, esprit, âme et corps, même quand on parle des choses de l'esprit. Mais ce qu'on voit en Ésaïe 53, c'est que Jésus a payé un prix. Et il a payé cher. Jésus a payé avec son sang, avec son corps, et par son sacrifice, pour que nos péchés soient pardonnés. Qu'est-ce qu'on a lu ici? C'est, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ensuite, il a payé cher pour que nous soyons rétablis émotionnellement aussi. Qu'est-ce qu'on a vu ici? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On voit Jésus dans le jardin de Gethsemane. On voit qu'il est angoissé. Et on voit que dans son âme, il avait un combat. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Il priait, sa sueur est devenue comme les gouttes de sang. Et il disait, « Oh, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il y avait un combat. Jésus, en fait, on voit cela dans la parole. Jésus a versé son sang 3 fois. Il a versé son sang dans le jardin, émotionnellement, au niveau de son âme, il a souffert. On voit que quand il était battu de verge, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Encore son sang coulait. Et finalement, quand il était cloué à la croix et percé pour nos iniquités, son sang coulait encore. Dieu s'intéresse à votre esprit, votre âme et votre corps. Amen. Votre esprit est déjà régénéré instantanément dès que vous confessez Jésus. Votre âme est, on va voir, renouvelée au fur et à mesure, c'est un processus. Et votre corps, ça c'est une chose intéressante. Jésus a racheté votre corps, mais la rédemption de notre corps est juste en partie aujourd'hui. La plénitude de la rédemption physique va venir seulement après la résurrection, où on va recevoir un corps glorifié. Jusqu'à ce moment, notre corps va quand même vieillir, notre corps peut quand même devenir fatigué, et un jour, les organes vont dire, « Ça y est, j'ai travaillé assez longtemps, et ça va arrêter de fonctionner. » Mais qu'est-ce qu'on va voir, c'est que on n'est pas entre-temps obligé d'être malade avec les maladies qui font partie de la malédiction de la loi, parce que selon Galates 3:13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et je vous lance le défi, parcourez la parole de Dieu, vous allez voir cela, Dieu promet une longue vie sur la terre et une vie qui est libérée si vous marchez en obéissance, si vous écoutez sa voix, si vous êtes en alliance avec Dieu. Dieu a donné les promesses pour la guérison divine dans notre corps physique aussi. Amen. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de mourir avec un cancer. On n'est pas obligé de mourir avec les maladies épouvantables. On peut, par la grâce de Dieu, par la grâce, vous êtes sauvés par la moyenne de la foi. Savez-vous quoi? Par la grâce, vous êtes sauvés. Le mot sozo, soteria, ça comprend. C'est un salut quadruple qui comprend la raison saine, qui comprend aussi la sécurité et qui comprend aussi la guérison pour votre corps physique. Quand Jésus dit à la femme atteinte d'une perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a guéri. Dans un évangile, c'est marqué sauvé. Un autre évangile, c'est marqué guéri. C'est le même mot soutérieur. Des fois traduit sauvé, des fois traduit guéri. Pourquoi? Parce que la guérison fait partie de cela. Mais est-ce que vous voyez, Jésus a payé cher. Esprit, âme et corps. Il a versé son sang. Son corps a été brisé pour mon esprit, mon âme et mon corps. Et voilà la bonne nouvelle. Cette œuvre est déjà faite. À la croix, c'était déjà accompli, mais il y a encore une œuvre que Dieu est en train de faire, et c'est pourquoi Thessaloniciens a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Dieu est toujours à l'œuvre. Celui qui a commencé à nous cette bonne œuvre vous la rendra parfaite au niveau de votre esprit, votre âme et votre corps. Et vous avez l'air d'être pas tellement convaincu ni heureux de ça. J'aimerais tellement installer un miroir. Bonne nouvelle! Si vous êtes spirituellement mort, aujourd'hui vous pouvez revenir à la vie et naître de nouveau. Si dans votre âme vous êtes angoissé, déprimé, vous avez des problèmes au niveau de vos émotions, au niveau de vos pensées, au niveau de votre volonté, bonne nouvelle, ça peut être restauré. Si vous êtes malade dans votre corps aujourd'hui, bonne nouvelle, Jésus vous offre la guérison à la place de la maladie. Ouh, ça c'est un peu mieux, merci. Donc, trois choses sont venues dans mon esprit il y a une ou deux semaines. Je l'écris même sur mon Facebook. Je dis, waouh, il faut que je dise ça, parce que c'est tellement fort dans mon cœur ce matin-là. Et je veux partager ça avec vous. Je crois que c'est de l'esprit. Vous savez, il y a trois choses que Dieu va faire pour nous sanctifier tout entier, pour que nous soyons vraiment dans cet état de bien-être total, dans l'homme entier. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il fortifie mon esprit. Il a déjà régénéré mon esprit, mais ça continue. Maintenant, à tous les jours, le Seigneur peut fortifier mon esprit. Et j'aime ça. Parce que, des fois, on peut se sentir un peu faible spirituellement. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Avez-vous déjà passé par des moments où vous avez eu le sentiment d'être un peu faible spirituellement? Éphésiens chapitre 3, il y a une bonne prière qu'on peut prier pour soi-même et pour les autres. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être quoi? Puissamment fortifié. Comment? Par son esprit ou dans l'homme intérieur, dans l'esprit. Puissamment fortifié par son Esprit Saint, dans l'homme intérieur, dans l'homme qui est caché du cœur. Et ça, c'est merveilleux, parce que moi, j'en ai besoin, et vous? Des fois, mon esprit a besoin d'être fortifié. Et ce qu'on va voir, ce processus de sanctification ou de renouvellement et de bien-être pour l'homme entier, c'est toujours l'œuvre de deux facteurs qui sont impliqués. Dieu se sert de son esprit et de sa parole, deux choses. L'Esprit et la parole travaillent ensemble pour faire cette œuvre. Son esprit nourrit mon esprit. Son esprit fortifie mon esprit. Sa parole nourrit et fortifie mon esprit aussi. Amen. Regardons cela. 1 Corinthiens chapitre 14. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Savez-vous que quand vous priez par le Saint-Esprit, que quelque chose se passe ici dans l'homme intérieur, vous êtes fortifié. La Bible dit en 1 Corinthiens 14, 4, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie comme on charge une batterie. Le mot édifié est très intéressant. J'ai regardé ça et j'ai vu la définition. Et le mot qui est utilisé pour 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, ce mot veut dire de finir la structure par laquelle la fondation a déjà été posée. Je vais le dire encore. Finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. Paul utilise le même mot en 1 Corinthiens chapitre 3. Quand il dit « j'ai posé une fondation », un autre bâti dessus, que chacun prenne garde de la manière qu'il bâtit. Le mot bâti, en 1 Corinthiens 3, c'est exactement le même mot en Jude 20 ici, vous édifiant. Et ça veut dire quoi? Comme Paul a posé la fondation, c'est-à-dire que prier dans l'esprit ne peut pas vous sauver, vous êtes déjà sauvé. Prier dans l'esprit ne peut pas vous régénérer, vous êtes déjà une nouvelle création. La fondation est déjà là, mais si vous voulez, combien de vous aimeriez vivre juste dans une fondation. Imaginez, hein? Au lieu de vivre dans un bloc avec les murs et un toit, vous avez juste un solage. C'est pratique en solage. On est tous d'accord. Mais c'est plus pratique avec les murs et un toit. Savez-vous, spirituellement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme des solages spirituels. Hein? Et ça fait dur, les solages, hein? Non. C'est du béton. C'est dur. Et on ne voit pas la finition du le produit final. Paul a posé la fondation, mais quelqu'un d'autre avait besoin de bâtir dessus. Et savez-vous que nous avons le pouvoir de bâtir sur la fondation de Jésus-Christ? Et une chose qu'on peut faire, c'est de prier dans l'esprit. Quand je prie dans l'esprit, je fais quoi? Je vais le lire encore la définition. C'est finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. C'est-à-dire donner un accroissement constant à la connaissance du chrétien et à une vie conforme au fondement. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Je dois laisser le Saint-Esprit me fortifier dans l'homme intérieur en priant dans l'esprit. Mais ce n'est pas juste la prière dans l'esprit qui le fait. Paul a dit quelque chose en Actes 20, 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole, tout le monde dit la parole, de sa grâce, à celui qui peut édifier encore, bâtir et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc, l'esprit, la parole, fortifie notre âme intérieure. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je pense que cette semaine, je veux prendre du temps dans la parole et je veux prier dans l'esprit parce que j'ai besoin de finir la structure. Dieu a commencé une bonne œuvre à moi, mais je ne veux pas juste être un solage chrétien, je veux être une maison. Vous êtes une habitation de Dieu, la Bible dit, n'est-ce pas? Deuxième chose que le Saint-Esprit fait pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, il va fortifier mon esprit, mais aussi il va restaurer mon âme. Il restaure mon âme. Votre âme a besoin d'être restaurée. Avez-vous déjà passé par des moments? Moi, j'ai passé par des moments où mon âme avait besoin d'être restaurée. J'étais fatigué émotionnellement, intellectuellement, épuisé, toute l'énergie siphonnée. Vous savez c'est quoi? Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être comme au bout du rouleau? Vous ne pouvez plus penser à autre chose. Si quelqu'un vous pose une autre question, vous avez l'impression que ça va juste faire déborder le vase, n'est-ce pas? C'est le goutte. On a ces moments dans la vie. Et c'est là où on a besoin d'un processus de restauration. Le mot « restaure » ici, encore, je commençais à rechercher cela et c'est intéressant parce que la plupart des fois, dans l'Ancien Testament, quand le mot « restaure » est utilisé, c'est « ramener » ou « de revenir ». C'est-à-dire que Dieu veut ramener ou faire revenir vos pensées à la bonne place. Il veut ramener vos émotions et vos sentiments à la bonne place et il veut ramener votre volonté à la bonne place. Il restaure votre âme. Avant la chute, Adam et Ève avaient toujours les bonnes pensées, c'est-à-dire qu'ils pensaient selon la volonté de Dieu, ils avaient les bonnes émotions et la bonne volonté. Sauf qu'on voit qu'après, les choses ont été pas mal dérangées. Vous êtes d'accord? Et on a besoin de laisser Dieu nous ramener à l'état où on est bien. On parle du bien-être total. Et je sais c'est quoi d'être bien dans mes pensées, et je sais c'est quoi d'être pas bien dans mes pensées. Je sais c'est quoi de penser des choses positives, et je sais c'est quoi d'être bombardé par des pensées négatives. Il y a quelqu'un ici qui peut compatir avec moi? Moi, je suis la seule personne qui a vécu ça. Je sais c'est quoi d'avoir le sentiment de « wow, ça va bien » et je sais c'est quoi d'avoir des luttes avec la dépression. Moi, je viens d'une famille qui a un historique de la dépression. OK? Mon grand-père avait des problèmes. Moi, je viens de savoir même, je ne savais pas, je devrais peut-être pas le dire. Il a dû quitter le militaire parce qu'il avait des problèmes avec ça. Il a craqué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma grand-mère, à un moment donné, elle a craqué émotionnellement. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui ont eu des problèmes assez majeurs avec la dépression et les problèmes émotifs, OK? Et voilà la bonne nouvelle, c'est que on a une nouvelle famille, n'est-ce pas? Et on n'est pas obligé. Moi, je sais c'est quoi. Moi, j'ai passé par des moments de dépression, même quand j'étais enfant. Je pouvais plus aller, après le divorce de mes parents, je pouvais plus aller à l'école. Je manquais tellement d'école, ils ont appelé, mes parents, ma mère, parce que mon père n'est pas là, et si ton fils manque une autre journée d'école, il va rater son année, il ne peut plus manquer d'école. Mais quand j'allais à l'école, je regardais par la fenêtre comme ça. J'étais déprimé. Hein? J'étais tellement triste dans mon cœur, et tout le monde se moquait de moi, et laisse-moi vous dire, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça a changé. Je suis redevenu. Mon âme a été restaurée. Parce qu'avant le divorce de mes parents, j'étais toujours le petit gars qui jouait avec tout le monde. J'étais jovial. Tout était beau. Et j'avais toujours une gang d'amis qui me suivaient. Et on avait de fun ensemble. Mais puis, tout d'un coup, boum, j'ai craqué. Mais le Seigneur a restauré mon âme. Et puis, par la suite, j'ai su. Tout le monde disait, mais tu sais quoi? Autrefois, tout le monde disait que tu étais la personne la plus conne dans l'école. Hein, mais maintenant, tu es correct. OK, merci. Ça, c'est très encourageant pour un garçon de 11 ans d'entendre ça. Mais c'est la réalité. Donc, je sais c'est quoi d'avoir une âme qui est dérangée, angoissée. Mais je sais c'est quoi d'avoir une âme restaurée aussi. Amen? Et c'est beaucoup mieux restaurée. C'est beaucoup mieux d'avoir des pensées qui sont positives en ligne avec la parole. C'est beaucoup mieux d'avoir un cœur qui est encore joyeux. C'est beaucoup mieux de pouvoir prendre les bonnes décisions. Dieu restaure l'âme. Et on n'a pas le temps d'aller en détail, de voir comment il le fait, mais on sait qu'il le fait. On voit ici, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8, 11 dit, n'est-ce pas? 14, pardon, Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont les fils de Dieu. Dieu restaure notre âme par la conduite de son Esprit, mais le moyen principal qu'il utilise pour restaurer notre âme se trouve en Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur quoi? La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pas sauver vos esprits, votre esprit est déjà sauvé. Mais la parole, il parle aux chrétiens ici. Il ne parle pas aux non-croyants. Recevez avec douceur la parole plantée dans votre cœur qui peut sauver vos pensées, qui peut sauver vos émotions, qui peut sauver votre volonté, qui peut ramener à la bonne place vos pensées, vos émotions et votre volonté. Il restaure votre âme. Combien de vous avez besoin des fois d'avoir votre âme restaurée? Voici la clé. Recevez la parole de Dieu. La parole a un effet de guérison dans l'âme aussi. Jésus guérit le cœur brisé. Ce n'est pas juste un esprit régénéré, mais Jésus guérit le cœur brisé. Mais il faut lui donner la chance de le faire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Donc, si vous voulez avoir une âme restaurée, recevez la parole avec douceur. Le mot douceur veut dire humilité. C'est-à-dire que je prends une décision, même avant de lire la Bible, de l'obéir. Même avant de savoir qu'est-ce que Dieu va dire, je sais qu'il est Dieu. Et peu importe, ma réponse est déjà décidée. Oui, chef, alors qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est l'attitude qu'on a besoin d'avoir quand on ouvre la Bible. Oui, chef. Oh, c'est ça que tu veux. OK, on y va. Mais il y a trop de personnes qui prennent la Bible comme choix multiple. Ils vont lire, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, mais ça, non. OK? Quand on lit des belles choses concernant les promesses de Dieu et la provision de Dieu, la guérison, etc. Ah oui, je réclame ça, réclame ça. Puis, pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Non, j'aime pas ça parce que je suis pas encore prêt à pardonner. Hein? Oh, c'est pas un choix multiple, c'est recevez la parole avec humilité. Si vous voulez que votre âme soit restaurée, il faut prendre une décision en avant. Tout le monde dit oui, chef. Puis, qu'est-ce que tu veux? Oui, chef, qu'est-ce que tu veux? J'y vais, je le fais, je mets ça en pratique et comme ça, je vais être heureux. Amen. Puis finalement, trois choses qu'il fait, il fortifie mon esprit, il restaure mon âme et finalement, il vivifie mon corps. N'est-ce pas une bonne promesse? Moi, je sais qu'il y a, c'est pas seulement moi qui a besoin d'un corps vivifié des fois. Moi, je suis encore très, très jeune. Très jeune, hein? Tu commences à être un peu moins jeune, mais tu sais qu'est-ce qu'on fait quand on commence à être moins jeune? Comme Pasteur Nari a dit, on commence à mettre l'argent de côté. Mais malheureusement, ça, c'est le seul que j'ai. C'est là, non. Non. Mais savez-vous quoi? Le corps va vieillir. Le corps, un jour, va lâcher. La Bible ne nous donne pas une promesse de vie éternelle pour le corps physique. La Bible nous donne une promesse d'un corps glorifié une fois que le mortel va être englouti par l'immortel, n'est-ce pas? Mais la Bible donne quand même des promesses. Pendant ce temps, on a déjà un gage. Le Saint-Esprit est donné comme un gage, n'est-ce pas? On peut déjà avoir les avant-goûts de notre rédemption finale. On peut aussi marcher dans la lumière de notre rédemption et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous parce qu'il est écrit « Maudit est tous ceux qui sont pendus au bois ». Amen. Donc, regardons ceci. Romains 8, 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos quoi? À vos corps mortels. Par son esprit qui habite en vous. » Il y a des gens qui disent, « Oh, mais ça parle de la résurrection d'après. » Non, lisez le contexte. Et vous allez voir clairement que Romains chapitre 8 ne parle pas de la résurrection finale. Il parle de notre vie ici sur la terre. Le contexte de Romains 8, il faut comprendre. Romains 6, Romains 7, Romains 8, ces trois chapitres surtout vont ensemble. En Romains 6, on voit comment nous qui sommes morts au péché, comment pouvons-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que vous qui êtes baptisés dans, vous êtes baptisés dans sa mort? Et Romains 6 parle du fait qu'on ne doit jamais plus livrer nos membres comme des instruments de l'injustice, mais que notre corps physique doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Romains chapitre 7 parle de ce combat. Oh, que le bon que je veux faire, je ne fais pas. Je fais ce que je ne veux pas. Oh, misérable que je suis, qui va me délivrer? Je vois dans l'homme intérieur une loi, mais je vois dans mes membres une autre loi, la loi du péché et de la mort, versus la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça, c'est le contexte. Et en Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui marchent selon la chair, l'esprit épargne selon la chair. Et on voit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On voit en Romains chapitre 8, verset 5, que si vous mettez vos affections sur les choses de la chair, vous allez avoir les résultats de la chair, qui est la mort. Mais si vous mettez vos affections sur les choses de l'esprit, vous aurez la paix et la vie. Et finalement, en Romains 8, 11, ça c'est le contexte. Et si le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus va vivifier votre corps physique. C'est-à-dire que même si vous avez dans votre corps les impulsions, les désirs, vous voulez consommer les choses que vous ne devrez pas consommer, vous voulez péter une coche ou faire des choses que vous ne devrez pas faire, si vous savez activer la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit qui est en vous va vivifier votre corps physique et faire en sorte que vous ne faites plus les choses que vous ne voulez plus faire. Ça, c'est le contexte. C'est-à-dire que je ne suis plus redevable à la chair pour obéir à ses convoitises. Ça, c'est le contexte. Mais on voit aussi que, partout dans la parole de Dieu, que Jésus, quand il était sur la terre, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il délivrait les malades. Il guérissait les gens. Et on voit qu'aujourd'hui, le même esprit qui a ressuscité Jésus peut vivifier notre corps et chasser la maladie et les microbes et les choses qui ne devraient pas être là non plus. Amen. Encore, c'est l'œuvre de l'esprit et de la parole. Son esprit et sa parole. Psaume 107, 20 dit, « Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. » Donc, c'est la parole qui guérit. C'est l'esprit qui vivifie le corps physique. J'aime beaucoup ce que Jésus a dit en Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc, c'est quoi qui vivifie? L'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Savez-vous, les paroles sont esprit et vie. Cette parole a le pouvoir de vivifier même mon corps physique. C'est-à-dire que si je suis esclave, s'il y a des personnes qui ont des luttes avec des habitudes, si vous êtes accro à quoi que ce soit, il y a des personnes qui ont des accrochages, on pourrait dire, il y a des personnes qui ont des habitudes au niveau de la consommation, au niveau de la sexualité, au niveau de certaines manières de penser ou quoi que ce soit. Si vous avez des impulsions dans votre corps physique que vous n'êtes pas capable de dompter vous-même, l'Esprit de Dieu, la parole qui est esprit et vie, va vivifier votre corps physique. Et vous serez une fois, et finalement, après avoir fait tous les autres efforts et essayé toutes les autres manières, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu peuvent finalement vous donner la liberté dont vous avez besoin. Amen. Et des fois, si vous avez consulté les médecins, vous avez certaines maladies dans votre corps, les médecins ne savent pas quoi faire, vous avez des belles promesses. Parce que maître cieux, vous avez été guéri. Il a envoyé sa parole, il est guéri. Il fortifie mon esprit. Il restaure mon âme et il vivifie mon corps. Nous avons un si grand salut, n'est-ce pas? On va se lever debout, on va remercier le Seigneur pour cela ce matin. Ça, c'est juste des bonnes choses à méditer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'aimons, nous te remercions. Seigneur, merci. Je sais qu'il y a des personnes ici ce matin qui ont besoin d'être fortifiées d'un homme intérieur. Il y a d'autres qui ont besoin d'avoir leur âme restaurée. Et Seigneur, il y en a qui ont besoin d'avoir un corps vivifié. Peu importe, Seigneur, ce matin, nous voulons te donner libre cours. Nous voulons t'inviter à faire ton œuvre de restauration en nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu fortifies mon esprit. Tu restaures mon âme. Tu vivifies mon corps. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible pour le jour du Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette parole avec humilité, avec tous les cœurs sensibles ce matin. Je voudrais juste donner l'occasion. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin? Vous écoutez ce message, vous dites, bon, ça serait bien d'avoir mon cœur, mon esprit fortifié, mon âme restaurée, mon corps vivifié. Mais pour dire la vérité, je ne suis même pas sûr que je connais Jésus. Je vais juste demander tout ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de donner sa vie à Jésus ce matin? Juste lever la main, vite, vite. Je connais presque tout le monde ici. Je regarde. Peut-être tout le monde l'a déjà fait. Mais je crois qu'on a tous besoin ce matin de prendre une décision, de laisser la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu nous fortifier, nous restaurer et nous vivifier. Priez avec moi. Père Céleste, merci pour ton esprit, merci pour ta parole. Que je sois fortifié dans l'homme intérieur. Que mon âme soit restaurée. Que mon corps soit vivifié. Pour que je puisse avoir un bien-être total dans mon être entier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Méditez ça. Mettez ça en pratique. Et puis, au fur et à mesure, on va voir de plus en plus comment le faire. Et on va marcher dans la lumière comme il est dans la lumière. Donc, chantons un dernier chant. N'oubliez pas, mercredi soir. Mercredi soir, on va décortiquer Ésaïe 53. C'est à ne pas manquer. Si jamais vous avez eu des questions, quand la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, Par ses meurtres issus, nous avons été guéris. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, mais ça, c'est juste spirituel, c'est pas physique. » Si jamais vous avez cru ça ou entendu ça, venez mercredi soir et on va voir. J'ai une longue liste des versets de la parole de Dieu qu'on va étudier ensemble et on va décortiquer cela comme il faut et ça va être une source de bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et on se verra dans quelques minutes.